Ce fouillis complexe d'engrenages et de leviers est le duplicateur Gestner, un des premiers photocopieurs. Mais en 1929, le designer Raymond Loewe a fait quelque chose qui a tout changé. Il a recouvert toute cette machinerie complexe d'une coque élégante et épurée. Ce simple geste a discrètement reprogrammé nos attentes pour toujours. Le design a cessé de vous aider à comprendre, mais s'est plutôt concentré sur le fait de s'assurer que vous n'ayez pas à le faire. Et cette idée s'est répandue parce que moins vous réfléchissez, plus il est facile de vous vendre quelque chose. Le monde a été repensé pour plus de commodité et de fluidité. Plus un produit devient simple, plus il est facile pour les entreprises de façonner notre comportement, et plus il est difficile de remarquer ce que nous avons perdu. Aujourd'hui, vous appuyez sur quelques icônes et de la nourriture apparaît à votre porte. Vous regardez des émissions conçues pour retenir votre attention, mais pas pour vous émouvoir. Même les rencontres amoureuses sont réduites à des puces et à des boucles de dopamine qui laissent tout le monde plus déconnecté. Ce n'est pas que les gens ont cessé d'être curieux. C'est que les systèmes canalisent désormais cette curiosité vers des comportements sûrs et rentables. Alors, comment en sommes-nous arrivés là? Et comment le design, qui était censé nous donner du pouvoir, est-il devenu un outil pour aplanir l'expérience humaine? Parfois, la réponse est juste devant vous, comme la façon dont vos écouteurs se connectent. Vous ouvrez l'étui et avant même qu'ils ne soient dans vos oreilles, ils sont déjà synchronisés. La musique commence exactement là où vous vous êtes arrêté. Pas de bouton, pas de réflexion, juste un clic magnétique et boum, vous êtes enfermé. L'interaction est si fluide qu'elle est pratiquement invisible. Et c'est exactement le but, parce que lorsque quelque chose devient aussi simple, cela cesse d'être ressenti comme un choix. Vous ne décidez pas d'écouter de la musique, vous réagissez simplement à un éclair d'ennui impulsif, à une pause dans une conversation ou à un moment d'inconfort, et soudain vous vous retrouvez au milieu d'un épisode de podcast. Les concepteurs originaux de Convenient Design n'essayaient pas de nous manipuler. Mais à mesure que notre monde devenait plus accablant et compliqué, les concepteurs voulaient simplement simplifier la vie. Loewe a fait en sorte que les objets aient l'air propre et épuré. Mais Dir Rome est allé encore plus loin avec cette idée. Il voulait que les produits disparaissent. Il pensait que le design devait être si intuitif et convivial qu'on le remarque à peine. Mais au fil du temps, les choses ont changé. Les entreprises ont compris qu'il était difficile de susciter l'envie de faire quelque chose. Il est bien mieux de le rendre facile en supprimant autant d'obstacles que possible. Il s'agit de créer une réponse conditionnée impulsive. Supprimer même les plus petits obstacles dans une interaction l'aide à devenir plus un réflexe qu'une pensée consciente. La saisie semi-automatique de Google vous recherche et corrige votre orthographe sans que vous ayez besoin d'y penser. Le raccourci de l'appareil photo d'Apple était également révolutionnaire. Ils ont rendu l'appareil photo accessible sans déverrouiller le téléphone. Il suffit d'appuyer deux fois sur le bouton latéral et de prendre votre photo. Cela ne vous évite qu'une étape supplémentaire, mais cela change complètement le comportement. Nous prenons tous plus de photos à cause de cela. Si vous rendez le design suffisamment facile, même votre solitude, votre ennui, votre silence gênant devient un déclencheur. Les designers font alors de leurs produits une échappatoire facile. Pensez au nombre de fois où vous consultez votre téléphone tout au long de la journée par réflexe lorsque vous ressentez le moindre inconfort ou ennui. Les entreprises ont appris qu'elles n'ont pas besoin de concevoir un meilleur produit qui améliore votre vie. Elles doivent simplement éliminer les frictions et rendre le produit accessible. Si vous y parvenez, les gens utiliseront votre produit même s'ils n'en ont pas vraiment envie. Cela devient juste une impulsion que vous ne remarquez même pas. Plus le déclencheur est subtil, mieux c'est. Autrefois, les spécialistes du marketing et les designers traditionnels disaient « Faisons en sorte que les gens aient envie de nos cigarettes ». Mais aujourd'hui, les entreprises disent en gros « Donnons-leur des cigarettes à la demande à volonté, directement dans leur poche, avec livraison gratuite, et un algorithme qui vous tente constamment d'en prendre une de plus ». L'un des plus grands risques de devenir dépendant à une drogue est d'y avoir facilement accès. Les meilleurs designers savent que cela s'applique également aux produits. Nombre d'entre eux s'attaquent à nos instincts de base que l'on trouve dans notre système lithique, qui est l'une des parties les plus primitives de notre cerveau qui gère les émotions et les récompenses. C'est rapide, automatique, et c'est ce qui vous pousse à éviter la douleur, à rechercher le réconfort et à courir après la dopamine, même lorsque votre cerveau logique sait mieux. Cela nous maintient prisonniers d'un état mental plus réactif. David Courtright appelle ce nouveau système d'entreprise et de conception le capitalisme limbique. On en est arrivé à un point où cette consommation aveugle est aussi destructrice que n'importe quelle drogue. Dans le livre Dopamine Nation, le patient de l'auteur est devenu accro au cycle de recherche et d'achat de produits en ligne. Il a acheté suffisamment de déchets bon marché sur Amazon pour remplir plusieurs pièces de sa maison et s'est endetté de dizaines de milliers de dollars, mais il n'a pas pu s'arrêter. La consommation est devenue une nouvelle forme d'addiction et nos produits et services modernes en sont le mode de livraison. Nous fuyons tous la douleur. Certains d'entre nous prennent des pilules. D'autres d'entre nous font du couchsurfing en regardant Netflix en boucle. Nous ferions presque n'importe quoi pour nous distraire de nous-mêmes. Rien ne nous satisfait et nous nous dévorons lentement dans ce cycle sans fin de fuite de l'inconfort. Et c'est là que ça fait peur. Plus nous restons coincés dans cette boucle, plus notre vision de l'avenir se rétrécit. Selon une étude portant sur les effets des drogues sur la planification à long terme, Les personnes qui ne sont pas dépendantes aux drogues pourraient planifier près de 5 ans à l'avance. Mais les personnes dépendantes aux opioïdes ne pourraient planifier qu'environ 9 jours à l'avance. La dépendance rétrécit votre univers. Elle vous fait passer d'un état d'esprit stratégique à un état d'esprit de survie. Vous cessez de penser rationnellement et commencez à penser de manière impulsive. Et le design moderne optimise ce résultat. Tous les produits et services qui vous entourent sont spécifiquement conçus pour vous empêcher de ressentir un véritable ennui. Mais l'ennui est en réalité une émotion très importante. L'ennui mène à la réflexion. Le fait est que les entreprises ne veulent pas que vous réfléchissiez au système qu'elles ont créé. Autrefois, les piscines restaient silencieuses en arrière-plan. Un marteau ne réclame pas votre attention, il attend juste d'être utilisé. Tout au plus, la forme de la poignée peut guider votre main, suggérant subtilement comment le tenir. Les outils plus anciens peuvent encourager un certain comportement, mais ils ne l'exigent pas. Aujourd'hui, nous sommes passés d'un monde d'outils passifs à un monde de technologies persuasives et addictives. Elles bourdonnent, sonnent, défilent et brillent. Elles vous guident. C'est déjà assez grave que cela détruise notre sentiment d'autonomie personnelle. Mais ce que cela fait à nos relations est encore pire. Parler honnêtement et ouvertement avec des amis proches et la famille favorise l'attachement humain, même au niveau neurochimique, déclenchant la libération de dopamine. Mais la surconsommation compulsive conduit à l'isolement et à l'indifférence. La poussée de dopamine bon marché de la commodité annule la récompense plus lente et plus riche de la connexion avec les autres. Et c'est l'une des principales raisons pour lesquelles nous nous sentons si seuls dans cette société moderne. Les entreprises l'ont conçu ainsi. Et lorsque la dépendance ou la compulsion l'emporte, l'empathie s'estompe. Des expériences montrent qu'un rat libre essaiera instinctivement de sauver un autre rat piégé dans une bouteille. Mais une fois que ce même rat a un accès illimité à des substances addictives, il cesse tout simplement de s'en soucier. Il n'essaie même pas. Et c'est exactement ce qui nous arrive. Ces systèmes qui promettent connexion et commodité, qu'il s'agisse des médias sociaux, du commerce sans friction ou du divertissement algorithmique, engourdissent nos instincts fondamentaux qui nous poussent à prendre soin les uns des autres. Des millions d'années d'évolution ont câblé nos cerveaux pour qu'ils aient soif de connexion sociale. Il n'est donc pas surprenant que lorsque les entreprises optimisent ces circuits à des fins lucratives, elles créent quelque chose de profondément addictif. Le design pratique est presque comme une drogue. Et comme toute drogue, il a un coût. Pour être très clair, j'ignore si le design pratique peut être classé comme une addiction clinique. Mais je pense que ces produits encouragent une vision du monde malsaine, égocentrique et à courte vue. Je ne pense pas non plus qu'aucune des personnes qui travaillent dans ces entreprises ne soit intrinsèquement mauvaise. Elles prennent simplement des décisions en fonction de mauvaises motivations et n'y réfléchissent pas trop. Même si les personnes ne sont pas mauvaises, une grande partie des résultats qu'elles créent le sont. En parlant de motivation, je suis incité à vous demander de vous abonner. Alors, cliquez sur le bouton si vous avez aimé cette vidéo. Mais quoi qu'il en soit, ces entreprises savent comment vous faire rester coincé dans le piège de la commodité. Avez-vous déjà remarqué que vous n'êtes jamais vraiment satisfait en utilisant ces produits? Personne ne se souvient de ce qu'il a regardé pendant une session de 30 minutes sur TikTok. Même Spotify a accès à pratiquement toute la musique jamais créée, mais il vous recommande toujours les mêmes chansons. Cela vous offre juste assez de nouveautés pour vous inciter à revenir, mais cela ne remettra jamais en question vos goûts ni ne vous forcera à évoluer. Le but est de vous faire continuer à faire défiler et à consommer plutôt qu'à réfléchir. Agnieszk est une entreprise qui fabrique un produit qui améliore réellement votre qualité de vie. Si vous êtes un designer, un ingénieur ou un monteur travaillant sur plusieurs appareils, Agnieszk est peut-être le meilleur outil que vous n'utilisez pas encore. Je l'ai intégré à mon flux de travail, et c'est une sorte de gamer. Avec Agnieszk, j'accède à distance à mon équipement de montage sur mon portable. La connexion est si rapide et réactive que j'ai l'impression d'être dans mon bureau. Et il fonctionne sur Windows, macOS et toutes ces autres plateformes. Et comme Agnieszk utilise un codec propriétaire, la qualité de l'image reste nette, même dans les zones reculées ou sur un réseau Wi-Fi instable. Le passage audio me permet de parcourir et de monter des vidéos YouTube à distance, et grâce à une disponibilité de 99,98%, je sais que je peux compter dessus. Les transferts directs de fichiers sont également très utiles. Plus besoin de télécharger sur le cloud, plus besoin d'attendre la synchronisation. Je déplace les rushs, les fichiers projets, tout ce dont j'ai besoin, directement d'un appareil à l'autre, instantanément et en toute sécurité. Si votre flux de travail se déroule sur de nombreux appareils ou emplacements, Agnie regroupe tout cela de manière transparente. C'est gratuit pour une utilisation personnelle. Et si vous avez une équipe, il propose des forfaits professionnels sur mesure. Merci à Agnieszk d'avoir sponsorisé cette vidéo. Téléchargez Agnieszk gratuitement dès aujourd'hui en utilisant mon lien dans la description. Revenons à la vidéo. Le coût de la commodité passive est bien réel. La livraison de repas en est un parfait exemple. Vous appuyez sur quelques cases sur votre téléphone et une boîte de nourriture apparaît devant votre porte. Vous obtenez exactement ce que vous voulez quand vous le voulez. Maintenant, à bien des égards, c'est incroyable. Mais à long terme, c'est vide et insatisfaisant. Toute une culture de la nourriture, de l'histoire et des relations humaines s'est réduite à quelques clics. Il n'y a pas de conversation, pas de contexte, Juste un sac en plastique et un algorithme. Puis nous nous asseyons sur le canapé, à moitié distrait, en train de regarder en boucle une autre saison oubliable de The Big Bang Theory. L'expérience est complètement plate et dénuée de sens. Avec la livraison, la qualité de la nourriture est toujours pire. Elle est souvent froide et détrempée. C'est beaucoup plus cher. La présentation des assiettes est médiocre. Et c'est du gaspillage en termes d'emballage jetable et de gaz nécessaire pour transporter la nourriture jusqu'à vous. La commodité est le seul véritable avantage. Il est bien plus rapide de commander quelque chose que de préparer soi-même son repas ou d'aller au restaurant. Maintenant, ne vous méprenez pas, il n'y a rien de mal en soi à cela. Je commande tout le temps des plats livrés. Le problème, c'est que les commodités modernes conduisent souvent à la déconnexion et à l'aliénation. Lorsque vous supprimez les frictions, vous effacez également l'histoire. On ne voit pas comment c'est fait, qui est le chef ou qui est le propriétaire du restaurant. La nourriture est complètement coupée de tout contexte plus profond. C'est juste une chose de plus à consommer plutôt qu'une expérience à apprécier. On perd le lien avec la nourriture et les personnes qui l'ont préparée pour nous. Les humains ont soif de connexion et d'un récit plus profond. Il y a une richesse sensorielle incroyable dans quelque chose d'aussi simple que de simplement choisir des fruits au marché. Mais au nom de l'efficacité, les entreprises font tout ce qu'elles peuvent pour effacer cette histoire. Cela rend les choses simples et stupides, mais cela cache aussi la vérité. En effet, derrière le rideau, l'histoire des entreprises qui privilégient la commodité est souvent laide. Exploitation du travail, élevages industriels et dommages environnementaux. Ils aplatissent une culture dynamique. Si nous ne pouvons pas voir comment quelque chose est fabriqué, il est plus difficile pour nous de nous y investir personnellement. Cela diminue notre sens de la communauté. Quelque chose d'aussi simple que de commander une pizza sur une application est mauvais pour la digestion, mauvais pour les relations et mauvais pour la santé mentale. Il y a une raison pour laquelle les enfants qui mangent au moins un repas par jour à la maison avec leur famille sont plus adaptés émotionnellement à l'âge adulte. Et ce n'est pas seulement la façon dont nous mangeons. C'est tout. L'anthropologue Mark Haye a inventé le terme de non-lieu pour décrire des espaces tels que les aéroports, les chaînes d'hôtels ou les stations-services. Des zones stériles de transactions conçues pour la fonction pure plutôt que pour la mémoire et le sens. Elles privilégient l'efficacité, la standardisation et une expérience fluide. Chaque espace comme celui-ci devient émotionnellement léger. C'est là que la culture va mourir. Mark Haye a surtout parlé des non-lieux dans l'architecture, mais je pense que cela imprègne toute la culture moderne. Il est partout. L'écho d'Amazon est un non-lieu sous forme de produit. C'est une masse générique sans caractéristiques qui peut tout faire mais qui ne signifie rien. Elle n'a pas d'histoire, pas de personnalité, pas de sens quant à qui l'a fabriqué ou pourquoi. Son seul rôle est de faciliter la consommation. C'est tout. Plus nous optimisons nos vies pour plus de commodité, plus tout commence à ressembler à un non-lieu. Si vous n'avez pas besoin de sortir de chez vous pour manger, faire du shopping ou socialiser, vous finirez par ne plus remarquer le monde extérieur à votre pièce. Et lorsque vous ne le remarquez plus, vous ne vous en souciez plus. Cela va bien au-delà de la simple manipulation de l'espace et de l'aplatissement de la richesse culturelle. Ces produits sont spécifiquement conçus pour accroître nos attentes en nous donnant exactement ce que nous voulons avant même que nous sachions que nous le voulons. À bien des égards, c'est formidable, mais nous perdons également la valeur de l'anticipation et de la compréhension approfondie. Sans cet effort ou cette compréhension, nous n'apprécions pas autant les choses. Apple est passé maître dans l'art de créer des designs sans effort. Ces produits sont l'aboutissement logique de la lignée de conception qui a commencé avec le duplicateur Gestner. Il n'y a pas de vis, pas de couture, aucune preuve de la façon dont l'objet est assemblé. C'est juste une boîte mystère minimaliste qui fait tout pour vous. Les produits Apple ne sont pas nécessairement mauvais, mais tout comme le duplicateur Gestner, ils ont des effets secondaires. Quand on ne peut pas voir comment les choses sont fabriquées, ni même voir leur fonctionnement interne sans détruire le produit, on a tendance à accepter le statu quo. On est censé admirer les belles surfaces et continuer à acheter. On n'est pas censé comprendre l'objet. C'est la norme pour la plupart des produits grand public aujourd'hui. Bien sûr, il y a des exceptions, mais la plupart d'entre elles ne sont que superficielles, comme la tendance technologique évidente qui apparaît tous les 20 ans. Je pense que cette tendance s'appuie sur le désir de reprendre le contrôle de nos produits. Si l'on peut voir l'intérieur de l'appareil, on le comprend mieux. Mais dans un monde où les entreprises sont opaques et où la confidentialité numérique est préoccupante, cette illusion d'honnêteté n'est pas différente du duplicateur Gestner de l'eau ou des produits monolithiques d'Apple. On peut voir les pièces à l'intérieur, mais on ne peut pas réellement interagir avec elles. On ne peut pas démonter l'appareil très facilement ni le comprendre mieux qu'un MacBook en aluminium scellé. Ce n'est qu'une coque esthétique superficielle plutôt qu'un changement plus profond. Lorsque nous éliminons tout ce qui pourrait susciter la curiosité, la friction ou la réflexion, nous aplatissons les complexités de la vie elle-même. Nous avons été entraînés à être moins curieux des systèmes qui nous entourent et à nous concentrer plutôt sur un divertissement sans fin. Je ne dis pas que les gens ne sont plus curieux. C'est juste que notre curiosité a été redirigée. Nos systèmes actuels récompensent de plus en plus une curiosité qui ne demande que peu d'efforts et qui se transforme en consommation. Vous pouvez regarder une douzaine de critiques de produits sur YouTube, puis acheter quelque chose. Vous faites défiler une cinquantaine de vidéos Instagram avec un placement de produits subtils. Notre curiosité est détournée du sens et de l'effort pour se tourner vers des choses qui sont rentables pour quelqu'un d'autre. Lorsque tout est facilement accessible, nous n'avons pas besoin d'explorer ou de nous adapter. Le design moderne nous prive même de notre capacité à prendre nos propres décisions. Il modifie même nos relations les uns avec les autres et avec les objets que nous possédons. Cette dernière partie sur les relations avec les objets peut paraître étrange, mais écoutez-moi. Prenez ma veste en cuir par exemple. Au fil des ans, le cuir s'est assoupli, s'est assombri et est lentement devenu plus ajusté. En tant que designer, je dessine beaucoup. Donc la manche de la main droite est visiblement plus foncée à force de traîner mon bras sur les tables des milliers de fois pendant que je dessine mes lignes. Chaque marque raconte une histoire de notre temps passé ensemble. Il y a là un souvenir et une personnalité. D'autres outils traditionnels sont comme ça aussi. Une poêle en fonte s'use avec le temps. Ces objets réagissent à la façon dont nous les utilisons. Un manche de guitare s'use. Vous ajustez la hauteur des cordes et le manche selon vos préférences personnelles. Vos doigts se renforcent et développent des callosités. Vous vous adaptez à l'objet et l'objet s'adapte à vous. Lorsque vous passez beaucoup de temps avec des outils et que vous nouez des relations avec eux, vous comprenez leurs particularités, leurs limites et leurs points forts. Une poêle en fonte ou une veste en cuir s'améliore avec l'âge, en partie parce que votre relation avec elle s'approfondit. Grâce à cette compréhension, vous gagnez en appréciation et vous grandissez tous les deux ensemble. Et écoutez, je sais que ma veste en cuir ne pense pas littéralement et n'a pas de sentiments. Je comprends. Ce n'est pas comme une relation avec une personne, d'accord? Mais il y a une certaine forme de réciprocité. Lorsque vous utilisez l'objet, vous comprenez peu à peu pourquoi les fabricants d'origine l'ont conçu de cette façon. Vous ressentez un lien avec eux. Le confort de la conception nous isole. C'est une raison importante. Nous obtenons immédiatement ce que nous voulons sans comprendre le travail, les personnes ou la complexité des relations entre eux. La marque d'un bon produit selon les normes actuelles est qu'il fonctionne parfaitement du premier coup et ne vous demande rien. Et c'est un problème. C'est une relation totalement unilatérale où il n'y a pas de façonnage mutuel. Il fait juste exactement ce que vous voulez. Cela peut sembler formidable, mais une véritable connexion se construit sur la compréhension mutuelle. Les entreprises technologiques donnent souvent à leurs assistants des noms humains comme Alexa ou Siri pour une raison. C'est pour vous donner une simulation de camaraderie. Mais une bonne relation nécessite des efforts, des négociations et de la croissance. Siri n'a besoin de rien de tout cela, car Siri n'existe que pour vous servir. Comme toute relation unilatérale, elle ne permet pas la profondeur et la compréhension. Cela s'applique à d'autres choses comme regarder des films. Voici ce que David Lynch avait à dire sur le fait de regarder ses films sur un téléphone. Maintenant, si vous regardez le film sur un téléphone ou sur votre ordinateur, vous ne verrez jamais le film en un billion d'années. Vous penserez l'avoir vu, mais vous serez trompé. C'est tellement triste que vous pensiez avoir vu un film sur votre téléphone. Soyez réaliste. Je sais. Je sais que vous regardez probablement cette vidéo sur votre téléphone ou votre ordinateur portable en ce moment, mais je l'ai conçu pour ce contexte. Et son point de vue est toujours d'actualité. Quand quelqu'un fait quelque chose avec soin et intention, la façon dont vous le vivez compte. Vous ne mangeriez pas un repas gastronomique dans une gamelle pour chien, c'est la même idée. L'art et le design sont censés être vécus d'une manière qui honore l'intention du créateur. Et lorsque vous ralentissez et écoutez, regardez ou ressentez réellement, vous comprenez un film plutôt que de consommer du contenu sans réfléchir. Je dois admettre que je sais que j'ai l'air d'un vieil homme mécontent qui ne comprend plus le monde quand je dis cela. Se plaindre des temps modernes est aussi vieux que le monde lui-même. Je reconnais également que les personnes qui n'utilisent que des produits analogiques de qualité inférieure simplement parce qu'ils ont une âme peuvent être un peu insupportables. Je tiens donc à préciser que concevoir quelque chose pour qu'il soit pratique n'est pas toujours une mauvaise chose. Tout le monde aime quand les choses fonctionnent. Et parfois, une simplicité fiable est absolument nécessaire. Je ne veux pas d'un extincteur capricieux avec de la personnalité pendant que ma cuisine brûle parce que j'ai accidentellement mis le feu à la dinde de Thanksgiving dans mon four capricieux et loufoque qui prend parfois feu. Je suis d'accord avec la commodité quand elle est importante, et la commodité peut absolument rendre la vie meilleure. Si je me sens fatigué, je peux déposer un chèque en quelques clics sur mon téléphone plutôt que de conduire jusqu'à la banque. Cela me laisse plus de temps pour me reposer ou me concentrer sur des choses qui me tiennent vraiment à cœur. Si je suis déjà débordé, je ne veux pas me concentrer sur une autre chose que j'ai à faire. Je comprends parfaitement. J'en ai juste marre qu'on me dise que la facilité d'utilisation et la commodité sont les plus grandes vertus du design. Ce n'est pas le cas. La promesse de la commodité, c'est qu'elle nous libère du temps. Mais du temps pourquoi exactement? Donc, je gagne du temps en évitant d'aller à la banque. Et après, j'ouvre Instagram et je fais défiler les pages pendant 20 minutes. J'actualise mes emails. Est-ce vraiment du temps gagné? Une partie de moi se demande si la tâche ennuyeuse d'aller à la banque ne serait pas plus enrichissante et intéressante. Au moins, on sort un peu. Peut-être qu'on dit bonjour au caissier. Ne vous méprenez pas, ce n'est pas vraiment une expérience qui change la vie, mais ça peut vous aider à vous sentir un peu plus connecté. Et je n'aime même pas faire des courses. J'en parlais à mon ami Rafi, et il m'a demandé « Si tout nous apparaît comme par magie, que faisons-nous de toute cette énergie que nous consacrions autrefois à préparer à manger ou à conduire jusqu'à la banque ?» On pourrait penser que nous serions plus heureux, mais les gens ne se parlent plus. Ils ne se mettent plus en couple, ils ont moins de relations sexuelles. Ils s'investissent moins dans la société. Ce n'est pas comme si nous utilisions le temps gagné pour faire des choses en famille ou nous adonner à nos loisirs. La plupart du temps, nous nous contentons d'errer d'un stimulus sensoriel à l'autre. Mon problème, c'est que nous continuons à nous dire que la commodité et l'efficacité nous libéreront, mais ce n'est généralement pas le cas. La promesse de gagner du temps est un mensonge lorsqu'il est simplement dépensé pour quelque chose de creux. Certaines entreprises vont encore plus loin. Elles aplatissent lentement notre relation avec le processus créatif lui-même. Tout cela au nom de la rapidité et de la commodité. C'est ce qui arrive avec la musique générée par l'IA. Voici ce qu'en dit le PDG d'une entreprise de musique basée sur l'IA. Nous ne voulons pas seulement créer, disons, une entreprise qui rendrait la génération actuelle de créateurs 10% plus rapide ou 10% plus facile la création musicale. Si vous voulez avoir un impact sur la façon dont 1 milliard de personnes perçoivent la musique, vous devez créer quelque chose pour 1 milliard de personnes. Donc, cela signifie avant tout donner à chacun le plaisir de créer de la musique. Et c'est un changement radical par rapport à ce que c'est aujourd'hui. Ce n'est pas vraiment agréable de faire de la musique maintenant. Les gens aiment. Cela prend beaucoup de temps. Cela demande beaucoup de pratique. Il faut vraiment devenir bonne avec un instrument ou vraiment bonne avec un logiciel de production. Je pense que la majorité des gens n'apprécient pas la majorité du temps qu'ils passent à faire de la musique. Maintenant, je ne sais pas de quoi parle ce type. La difficulté du processus créatif est exactement ce qui est agréable. Faire des choses stimulantes qui nous aident à grandir est tout l'intérêt de la vie. Si vous perdez toutes les nuances du processus de création musicale, pourquoi s'embêter? L'IA présente de sérieux risques existentiels et culturels, et cela mérite d'être souligné. Propre vidéo. Mais pour l'instant, concentrons-nous sur quelque chose de plus immédiat. Vous ne pourrez pas faire confiance à tout ce que vous voyez en ligne. Le nouveau modèle VO de Google peut générer une vidéo à partir d'une simple phrase et elle semble incroyablement réelle. Nous entrons dans une ère où l'effort et l'authenticité ne sont plus nécessaires pour rendre quelque chose convaincant. C'est un énorme problème. Comment pouvez-vous vous sentir émotionnellement attaché à une performance, à un reportage ou même à un visage humain si vous n'êtes pas sûr qu'il soit réel et qu'aucun effort n'a été fait pour le réaliser? L'IA efface presque complètement le processus de création des choses. Je ne dis pas que l'IA est toujours mauvaise, mais une grande partie de ce qui donne de la valeur à quelque chose est l'effort qui la sous-tend. L'aplatissement pratique est devenu une tyrannie. Si cet avenir continue, nous continuerons à nous refuser le droit de prendre nos propres décisions et à nous priver d'innombrables moments épanouissants. Le monde moderne veut nous garder plat, prévisible et parfaitement efficace. C'est comme un gaufrier. Lorsque vous versez la pâte, elle commence par être fluide, désordonnée et dynamique. La grille se referme, la pression monte. Et la chaleur nous presse tous en carré parfaitement plat et uniforme. C'est ce que la société nous fait. Je sais que c'est un cliché, mais vous savez que c'est vrai. Cela aplatit notre complexité et notre individualité en quelque chose de prévisible et net. Tout le monde sait que les marges dorées et croustillantes sont là où ça se passe. C'est asymétrique, un peu inégalement cuit, et honnêtement, c'est la meilleure partie de toute cette foutue gaufre. Mais honnêtement, je suis plutôt un fan de crêpes. J'aime quand elles sont en forme de grappe. L'ère de l'information nous a apporté une vitesse et une efficacité incommensurables. Nous avons désormais le choix entre entrer dans l'ère de la consommation irréfléchie ou dans l'ère de l'empathie profonde. Les choses les plus lentes qui ne nous récompensent pas immédiatement sont les expériences qui nous marquent. Les choses qui nous aident à ressentir et à nous connecter sont celles qui aideront notre empathie à grandir. Si nous voulons nous libérer, nous devons réintroduire délibérément la difficulté dans nos vies. Opter pour la friction plutôt que la facilité détonne avec nos réflexes modernes. Et le monde qui nous entoure est en constante évolution, nous attirant vers le chemin de la moindre résistance. Mais nous commençons à nous rappeler que la friction apporte de la profondeur. L'un des meilleurs exemples de quelque chose de lent mais gratifiant est d'apprendre à jouer d'un instrument. Cela peut être répétitif, frustrant, coûteux et vous allez être nul pendant très longtemps. Mais malgré tout cela, apprendre à jouer d'un instrument de musique est l'une des choses les plus gratifiantes que vous puissiez faire. Ce qui est génial avec la musique, c'est qu'elle est encore plus amusante lorsque vous jouez avec d'autres personnes. Elle a un élément communautaire intégré. Mais ce n'est pas forcément de la musique. Cela peut être n'importe quoi. Vous pouvez faire de la photographie, du dessin, du jardinage, du travail du bois ou tout ce qui nécessite du calme et de la concentration. Même le simple fait de s'asseoir et de prendre un repas avec des amis suffit. Vous pouvez même vous asseoir dehors et regarder des arbres pendant quelques minutes chaque jour, peu importe. Je sais que ma solution peut paraître cliché et banale, surtout lorsque les forces qui nous poussent vers un aplatissement pratique sont si fortes. Je veux donc être honnête avec vous. Il n'y a pas de limite. Des solutions simples au sentiment d'aliénation que crée le design moderne. Les récompenses d'une vie consciente ne sont ni immédiates ni garanties. Parfois, on a l'impression de crier dans le vide. Je n'ai pas les réponses à ces questions. Personne ne les a. Mais cela ne veut pas dire que c'est dénué de sens. La réalité est que nous devons aller de l'avant malgré l'incertitude. Si vous faites cela, le monde pourrait se révéler à vous comme quelque chose de magique et d'inspirant l'admiration qui ne nécessite pas d'évasion. Au lieu de cela, le monde pourrait devenir quelque chose qui mérite qu'on s'y intéresse. Ces vidéos prennent des centaines d'heures à réaliser. Je lis plus de 1000 pages d'articles et de livres. Je discute avec des experts du secteur, et je réfléchis à mes 15 années d'expérience dans le secteur du design. Si vous aimez ces vidéos et que vous souhaitez contribuer à la création d'un lieu où le design et la culture sont abordés avec profondeur et honnêteté, alors pensez à me soutenir sur Patreon. Vous pouvez vous inscrire pour quelques dollars par mois et, en guise de remerciement, vous aurez un accès anticipé à mes vidéos ainsi que quelques autres avantages. Mon projet est de passer progressivement à un modèle plus axé sur le public pour cette chaîne. De cette façon, nous pourrons parler de ce qui nous intéresse, les vidéos qui vous intéressent. Un grand merci à mes mécènes ainsi qu'à Tim et David. Je tiens également à remercier le livre Unflattening de Nick Susanis. C'est là que j'ai trouvé le terme « aplatissement » pour décrire l'homogénéisation de la culture. J'espère que vous avez appris des choses et passé un bon moment.